Paranormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. La hantise de la maison de San Pedro. En 1989, Jackie Hernandez, une jeune femme de 26 ans et ses deux enfants, sont victimes d'une entité paranormale invisible, particulièrement violente. Les faits se sont déroulés dans le quartier hispanique de San Pedro à Los Angeles. Cette affaire est plus connue sous le nom de la maison de San Pedro. Tout commence à l'automne 1988, alors que Jackie Hernandez décide brutalement de changer de vie. La jeune femme, née en 1963, n'a pas eu une enfance très joyeuse. Elle a toujours été angoissée et déprimée. Mais malgré les épreuves de la vie, elle choisit d'aider les autres en devenant psychologue. Pendant ses études, elle fait la connaissance de son futur mari, Al Hernandez. Un premier enfant naîtra de cette union. Jackie tombe enceinte une seconde fois quand le couple décide de se séparer. Jackie trouve un petit bungalow à l'angle de la 11e rue et de Grand Street à San Pedro, à Los Angeles. Son petit garçon, Jamie, a 2 ans et Jackie est quant à elle à son 7e mois de grossesse. Au début, elle se sent à l'aise dans sa nouvelle maison. Son petit garçon fait ses nuits, Jackie trouve le repos auquel elle aspirait. Elle peut enfin se concentrer sur ses études de psychologie. L'examen pour obtenir son diplôme est sa seule priorité, après le bien-être de son fils. Cependant, au fil des jours et des nuits, la jeune femme ressent un stress de plus en plus intense. Au début, elle pense que cela est dû à des traumatismes passés. Cependant, cela n'explique pas les bruits qui commencent à se faire entendre. Le sol de la chambre et du salon grince de manière inhabituelle, comme si quelqu'un appuyait sur le sol de tout son poids. Il y a également ces frottements sur les meubles, des coups donnés contre les murs et à toute heure de la journée, mais surtout, ce sentiment d'être constamment observé. Dès le printemps de l'année 1989, ce qu'elle pense être le fruit de son stress prend une ampleur bien plus angoissante. Un soir, alors qu'elle s'accorde un moment de détente devant la télévision, elle est surprise par des grattements provenant du mur du salon. Elle est incapable de déterminer si ces grattements proviennent de l'intérieur des murs ou de l'extérieur. L'explication qui lui paraît la plus logique étant celle d'un animal se faisant les griffes contre les parois du bungalow. En ouvrant la porte, elle manque de se faire heurter par des cailloux dégringolants de son toit. Jackie part se coucher, avec la certitude que les soirs suivants seront plus calmes. Désormais, il n'y a plus une seule nuit qui se passe sans que son repos ne soit perturbé par de nouveaux phénomènes. Tous les soirs, plus ou moins à la même heure, un son strident se fait entendre dans toute la maison, à en faire pleurer son fils de 2 ans. Jackie pense que cela provient du conduit d'aération. En cherchant l'origine, elle découvre dans la buanderie la trappe du grenier ouverte. La jeune femme pense avoir trouvé l'explication. C'est certainement l'effet du vent s'infiltrant dans toute sa maison. En revanche, elle ne peut pas expliquer comment la trappe a fait pour s'ouvrir toute seule. Pour la première fois, Jackie a vraiment peur. Lorsque la trappe se referme brutalement, Jackie ressent une force invisible, une présence indéfinissable. Comme si cela ne suffisait pas, on frappe violemment à la porte. Cette fois, ce n'est que sa voisine, Suzanne Castaneda. Elle a l'habitude de rendre régulièrement visite à cette mère célibataire pour s'assurer qu'elle ne manque de rien. Jackie en profite pour se confier sur les différents événements étranges qui se sont produits entre ses murs. Notamment cette fois où un cadre photo s'est décroché tout seul. Bientôt, sa voisine et amie Suzanne devient à son tour témoin de phénomènes paranormaux. Soudain, un bruit fait sursauter tout le monde dans la cuisine. Un tableau vient de se détacher tout seul avant de tomber sur l'évier. Les deux femmes trouvent également 2 clous sur la table. Ceux-ci se dressent à la verticale devant leurs yeux. Plus tard, Jackie fait l'acquisition d'un chat nommé Cléo. L'animal devait initialement tenir compagnie à Jamie. Rapidement, son comportement interpelle. Jackie observe régulièrement son chat fixer quelque chose dans le vide. Il s'amuse également à jouer avec des ombres apparaissant de nulle part sur les murs. Durant l'année 1989, les événements s'enchaînent si rapidement qu'il est impossible d'en déterminer un ordre chronologique. Les phénomènes paranormaux sont perçus par plusieurs témoins. En plus de Jackie et de la voisine, il y a également Darlene, une amie de l'étudiante, ainsi que la babysitter de Jamie et de la petite dernière qui vient de naître, Samantha. La babysitter s'appelle Chrissy Zikovic et à l'époque, elle est âgée de 16 ans. Un soir, d'étranges lumières font également leur apparition au plafond de la cuisine. L'adolescente est présente avec Jackie. Toutes deux observent ces lueurs qui n'ont rien d'ordinaire. Chrissy est effrayée. Elle supplie la mère de famille de quitter la maison. Cette dernière tempère, elle a une autre idée. Elle saisit son appareil photo et prend deux clichés de la scène, mais subitement, l'appareil cesse de fonctionner. L'adolescente essaye également de prendre un cliché. L'œil dans le viseur, elle dirige l'objectif vers la fenêtre où vient d'apparaître une nouvelle lueur. Ce qu'elle voit à travers l'appareil n'est plus une lumière, mais le visage déformé d'un vieil homme. Chrissy, terrorisée, prend la fuite. Elle mettra plusieurs jours pour s'en remettre, avant de décider de revenir dans la maison hantée de San Pedro pour le bien de sa patronne, Jackie, et de ses enfants. Un soir, Chrissy se dirige vers la chambre de Jamie pour s'assurer que le petit garçon va bien. En traversant le couloir, elle est envahie par une sensation inhabituelle. Le couloir s'allonge, comme sous l'effet d'une distorsion. Elle a du mal à atteindre la porte de la chambre. Celle-ci s'ouvre brutalement. La sensation s'estompe. Chrissy constate que le garçon dort profondément. Au moment de partir, elle voit qu'un homme est allongé dans le lit, à côté du petit garçon. Il a le regard vide, l'aspect cadavérique. L'apparition ne dure que quelques secondes. Les autres occupants de la maison ont également attesté de cette présence à d'autres moments. Le petit Jamie commence à faire des cauchemars. Sa petite sœur, Samantha, pleure aussi régulièrement pendant la nuit. La voisine de Jackie essaye d'aider la jeune femme comme elle le peut, mais la situation est complexe étant donné la terreur omniprésente qui règne dans la maison. Al se rend parfois dans la maison de San Pedro pour s'occuper de son fils, pendant que son ex-compagne travaille. Jackie finit par lui parler des phénomènes étranges. Elle lui parle de cette eau qui coule le long des murs avant de disparaître brutalement. Elle évoque également cette présence qui la terrifie profondément. Le père de famille doute de ses propos. Il pense que ce récit fantasque est un moyen comme un autre de capter son attention. Un soir, déterminé à prouver qu'il n'y a aucune présence maléfique dans cette maison, Al s'adresse directement à elle et lui demande de se manifester. Rien ne se produit. Plus tard, en l'absence de son ex-compagnon, Jackie se rend dans sa chambre, ouvre le placard pour ranger quelques vêtements. Elle découvre, stupéfaite, le nom de son ex-mari inscrit partout, à maintes reprises, sur toutes les parois. À la suite de ce nouveau phénomène, Jackie ne peut plus dormir dans la maison. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de déménager. Sa voisine et amie, Suzanne, lui conseille de tout raconter à ses propriétaires. Jackie refuse. Cependant, quelques jours plus tard, elle et sa voisine les croisent par hasard. Après avoir fait un bref rapport des phénomènes, ces derniers font appel à l'église. Jackie place dans cette visite de grandes espérances. Hélas, c'est la désillusion. Deux prêtres se présentent au domicile, mais très rapidement, ils se montrent froids, distants. Ils remarquent une cassette vidéo de films d'horreur. Ils ne trouvent pas meilleure approche que de critiquer les goûts personnels de la jeune femme. Ils font de même avec un petit squelette ornemental dans l'aquarium, ou encore la collection de poupées, dont une est un souvenir des Caraïbes. D'ailleurs, l'un des prêtres déclare qu'il s'agit d'une poupée vaudou. Selon lui, c'est bien là la source de tous ses ennuis. Plus tard, les deux prêtres font la connaissance de Jamie. Le petit garçon est très agité. Les deux prêtres jugent le comportement de l'enfant anormal et déclarent que le petit Jamie est possédé par le diable. Après avoir béni l'enfant, ils repartent. Le soir suivant, les phénomènes reprennent. Darlene, l'amie de Jackie, est un témoin de plus dans cette affaire de hantise. Elle est chargée de garder Jamie et Samantha. Un soir, C'est l'heure pour les enfants de prendre leur bain. Darlene prépare leurs vêtements et s'apprête à rejoindre la salle de bain. Jusqu'à ce qu'elle entende une voix provenir des murs, lui interdisant de s'y rendre. Elle semble avoir été la seule à l'entendre, puisque les enfants, Jamie et Samantha, n'ont pas réagi. Un autre jour encore, Jackie voit sur le frigo des lettres collées former le mot « Get out », fichez le camp d'ici, en français. C'est un petit détail, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Jackie lutte pour rester éveillée le plus longtemps possible, craignant que la présence ne s'en prenne à ses enfants si elle s'endort. Elle s'est installée dans le salon. Elle veille sur Jamie, dormant sur un petit canapé en futon à côté d'elle, juste à côté du berceau de sa fille. Chaque nuit, son angoisse s'accroît. Une nuit de février 1989, Jackie se réveille soudainement. Elle croit entendre une respiration. Paniquée, elle inspecte la maison. Elle découvre un vieil homme assis sur le lit de Jamie, le fixant. Il ressemble à un cadavre en décomposition avancée. Jackie recule précipitamment, mais quand elle regarde de nouveau, l'apparition a disparu. La maison est ensuite illuminée par les lueurs qu'elle et Chrissy avaient essayé de photographier quelques semaines auparavant. Vers la fin de l'hiver, son amie Suzanne lui parle d'une émission de télévision traitant de phénomènes surnaturels, The Haunted Queen Mary. L'émission est animée par trois enquêteurs du paranormal. Elle pense que c'est le bon moment pour leur demander de l'aide. L'équipe est dirigée par le docteur Barry Taff. Il a été directeur du laboratoire de parapsychologie de l'UCLA, la célèbre université de Californie à Los Angeles. Il a notamment enquêté sur le cas Doris Bither, une femme dont la maison est hantée par des fantômes masculins en Californie. Barry Taff accepte de venir en aide à Jackie. Il arrive avec une équipe de tournage, espérant capturer quelques phénomènes surnaturels pour ensuite mieux les étudier. Dans son équipe se trouve le caméraman, Jeff Whitcraft. Celui-ci est un peu sceptique, mais se porte tout de même volontaire pour explorer le grenier et prendre des photos. Il se retrouve vite en difficulté. Son appareil photo est violemment arraché par une force invisible. Il faudra attendre une bonne heure pour que Jeff se calme et accepte de retenter l'expérience. Cette fois-ci, il est accompagné par un autre caméraman, Barry Conrad. Tous deux retournent dans le grenier. Ils découvrent que l'objectif et le boîtier de l'appareil photo ont été séparés et se trouvent dans deux coins différents de la pièce. Pour l'heure, les résultats de l'enquête ne sont pas encore très probants. Pour le docteur Barry Taff, il faut des preuves matérielles. Jeff, accompagné d'un autre photographe, Gary, se rend une nouvelle fois dans le grenier pour prendre des clichés. Alors qu'ils achèvent leur travail et se préparent à redescendre, une force invisible ramène Jeff dans le grenier, sous les yeux de Jackie, Taff et Suzanne. Gary part à sa recherche et découvre Jeff pendu par le cou à une corde à linge enroulée autour d'un clou, planté haut dans la paroi du mur. Le caméraman infortuné est sauvé par son collègue. De cet événement subsiste une photographie aussi surprenante que terrifiante. Malheureusement, comme dans toute affaire de maison hantée, on ne peut pas savoir s'il s'agit ou non d'un canular. Après tout, n'avions-nous pas eu affaire à des photos truquées lors du cas Enfield ? Après ces événements, Jackie décide de fuir avec ses enfants, quittant à la fois la maison et la ville. Elle trouve refuge dans un mobile home sur Chucker Street à Weldon, en Californie. Nous sommes en octobre 1989. La jeune femme peut enfin se consacrer pleinement à sa vie de famille et à ses études. Pourtant, la tranquillité qu'elle pensait avoir gagnée ne va pas être de longue durée. Au mois de mars 1990, les phénomènes reprennent de plus belle. Des bruits violents provenant d'un petit hangar derrière la maison les réveillent, elle et ses enfants. Une nuit, le couvre-lit de la chambre prend mystérieusement feu après que Jackie et sa sœur ont aperçu une entité brumeuse. Quelques jours plus tard, James et Janice Silcott, ses nouveaux voisins, aident Jackie à déplacer une télévision. Soudain, ils aperçoivent l'image décharnée d'un vieil homme à l'écran. Ils décrivent l'entité avec des yeux malveillants et effrayants. En entendant leur témoignage, Jackie réalise que cette apparition ressemble trait pour trait au spectre qui la tourmentait à San Pedro. Elle contacte immédiatement le docteur Barry Taff. celui-ci poursuit son enquête dans la maison, aidé par une planche de Ouija. Le Ouija est une planche censée permettre la communication avec des esprits. Elle fait partie des instruments de psychographie indirecte selon les spirites. Sur cette planche apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les chiffres de 0 à 9, ainsi que les mots oui, non, bonjour et au revoir. Tous ces mots, lettres et chiffres sont censés permettre la communication avec les esprits au moyen d'un accessoire placé sur la planche, généralement un verre retourné ou une goutte, un objet disposant d'un côté pointu. Selon la parapsychologie, le Ouija est un moyen classique, mais risqué, d'entrer en communication avec le monde des esprits. Barry Taff parvient avec cette planche à entrer en communication avec un homme assassiné dans les docks voisins, appelé Henderson. Celui-ci aurait dit que Jeff Whitcraft, le caméraman retrouvé pendu, serait son assassin. Cet Henderson aurait également une haine envers la famille Hernandez dont Jackie fait partie. Le récit présenté comporte des zones d'ombre et des incohérences. Ces éléments, sans fondement scientifique solide, rendent l'histoire plutôt incertaine. De plus, les détails sur l'identité de l'homme assassiné, nommé Henderson, restent flous, sans véritable confirmation de son existence. Cependant, malgré ces zones d'ombre, ce cas de hantise de San Pedro est considéré comme très documenté, avec des preuves visuelles, photographiques et filmées, qui ont été capturées et compilées par l'équipe de Barry Taff. En 1997, les preuves recueillies ont servi dans le documentaire « An Unknown Encounter, A True Account of a San Pedro Haunting ». Une rencontre inconnue, un récit véridique de la hantise de San Pedro. Ce documentaire met en lumière l'expérience du caméraman Jeff Whitcraft, devenu célèbre dans le monde paranormal. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes accordent beaucoup de crédit au récit de Jackie Hernandez et de Barry Taff. Pour les sceptiques, tous ces phénomènes ont été montés de toutes pièces pour gagner un peu d'argent. Après tout, la maison de San Pedro n'a-t-elle pas été habitée par une jeune femme pauvre et désœuvrée? Dans la précédente affaire traitée par Barry Taff, la protagoniste était déjà une mère célibataire avec peu de revenus. Autre fait similaire, il s'agissait également d'un cas de fantôme s'attaquant physiquement à des personnes humaines. Aujourd'hui, Jackie Hernandez vit toujours à San Pedro, dans une autre maison. Le succès de cette histoire lui aura au moins permis d'élever dignement ses enfants. Quant à la supposée maison hantée, on raconte qu'aucun locataire ne veut y rester plus de 6 mois.